Les pieds sur terre, Sonia Krönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Alice Babin est une collaboratrice régulière des Pieds sur Terre depuis quelques années, mais elle fait aussi des livres et des articles. Comme tant d'autres dans nos familles, parmi nos amis, nos collègues, nos parents, nos grands-parents, les parents de nos amis ou de nos collègues, enfin tout autour de nous désormais, elle a été touchée par le coronavirus. C'était il y a un peu plus de 2 semaines, au début. 9 longues journées de maladie avec tous les symptômes devenus classiques, pas un ne manquait. Maintenant, elle va bien, elle est sortie de sa quarantaine et même dehors quelquefois. Elle reste confinée bien sûr. Mais elle se souvient que du fond de son lit et de sa torpeur, ce qui filtrait du monde extérieur à travers les rares nouvelles qu'elle écoutait à la radio ou à la télévision, lui donnait l'impression d'être dans un pays en guerre, à feu et à sang. Évidemment, c'était angoissant. Et puis, elle me dit que l'autre chose qui la mettait mal à l'aise, c'était d'entendre les applaudissements le soir à 20h qui ont commencé à apparaître. Pour elle, il y avait un truc qui clochait dans cette façon de traiter les personnels médicaux en héros, comme s'ils étaient en train de se sacrifier sur le champ de bataille, comme s'ils étaient des soldats prêts à mourir. Et puis cette joie à applaudir, cette excitation au balcon pendant que dans son lit et dans les hôpitaux, c'était le chaos, ça la gênait un peu, sans bien savoir pourquoi. Alors quand elle s'est complètement remise, elle a cherché des réponses à ces questions. Qui sont les personnels médicaux qu'on applaudit? Est-ce que ça les aide, ça les soutient, ça les agace? Quel sens ils y trouvent? Et puis est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce que c'est vraiment la guerre comme ça, dehors? En parlant à ces 4 femmes que vous allez entendre tout de suite, une infirmière, une psychiatre à Paris, une médecin de campagne dans l'Isère et une kiné en Corse, Alice a certes voulu comprendre et se rassurer, mais elle a aussi souhaité trouver une façon à elle et à nous de les applaudir, les soignants, dans la tempête, en les écoutant un peu tout de suite. C'est les pieds sur terre, confinés, mais toujours à l'écoute.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Oui, allô?
Allô, Marie?
Oui, allô, Alice, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ça va?
Ça va. Je viens de me réveiller, j'ai travaillé cette nuit. J'étais bien.
Ah, tu viens de te réveiller, donc tu veux que je te laisse un peu de temps pour te réveiller ou ça va?
Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Autant le faire maintenant et après j'irai faire des courses et tout.
Ok.
Donc je m'appelle Marie, j'ai 23 ans, je suis infirmière en soins intensifs depuis 2 ans et je travaille à la PHP à Paris dans un grand centre hospitalier. Là, je suis encore en début de carrière, c'est à peu près 1 700 € de jour. Avec des week-ends compris, 2 week-ends compris, net. Et je compte pas les heures sup. Et quand je suis de nuit, c'est à peu près 1 800 à 1 900 €. Habituellement, je suis affectée dans un service qui s'appelle hématologie, où on s'occupe de tout ce qui est cancer du sang, les leucémies, les myélomes, les lymphomes. Et on a changé de public dans notre service. Et mes collègues qui m'ont prévenu que on devenait une unité Covid. Vu qu'on est équipé, on a des scopes pour surveiller les personnes qui sont connectées avec toutes les salles. On a de l'oxygénation, on a des pousses seringues, des grosses tours de pousses seringues pour pouvoir passer les traitements. Donc ça a été décidé qu'on se transformait en unité Covid. Et après, le premier jour, quand je suis arrivée, on a eu une micro-formation sur comment gérer tout ça, comment s'habiller, comment prendre en charge dans les chambres. Mais on savait pas du tout en fait dans quoi on allait, quels étaient les traitements, quelle était la prise en charge. On avait encore plein de questions qui subsistaient. Ça, ça a été vraiment très, très brutal. Vraiment, ça a chamboulé toute ma pratique. Nos situations d'urgence sont pas du tout les mêmes. Ça va être des grosses infections, ça va être des problèmes dus au greffe, mais ça va pas du tout être des insuffisances respiratoires dues au Covid. Ça veut dire qu'on a dû totalement se réorganiser, revoir nos surveillances. Ce qui fait que, en fait, on en a 5 en charge à peu près. Et donc, on doit à chaque fois changer de chambre parce qu'il y en a un qui se dégrade. On retourne dans l'autre parce que l'autre se dégrade. Et en fait, c'est ça toute la journée. Alors que normalement, je prends beaucoup plus le temps de parler avec mes patients. Il reste 6 mois, voire 1 an. Donc, ce qui fait qu'on a une relation soignant-soignée très profonde. Alors que là, j'ai l'impression que toute la journée, en fait, je passe d'une chambre à une autre et j'ai pas le temps de les connaître, quoi. Il y a des semaines où je vais faire du 60 heures et d'autres semaines où je vais faire du 24 heures. C'est habituel, mais le Covid, il a tout changé. Par exemple, là, mes semaines de repos ont disparu. J'ai plus de repos jusqu'en mai. J'ai des jours qui se sont rajoutés où je suis réquisitionnée. Des jours où je devais faire 24 heures, où au final, je vais faire 46 heures, 48 heures de travail, quoi. Mais si on a les connaissances pour le faire, autant qu'on soit appelé, moi, je me vois pas personnellement rester les bras croisés chez moi, alors que je sais ce qui se passe et regarder BFM TV toute la journée en me disant que oui, je suis capable de faire quelque chose et je suis là à ne rien faire. Et j'habite déjà assez loin de l'hôpital d'où je travaille. Et les transports, il y en a plus beaucoup. Ou à des heures où les horaires ne correspondent pas. J'habite aussi avec des personnes fragiles. Et mon papa, il est malade. Donc, il est très sensible à tout ce qui est infection, virus et autres. Et comme je savais que j'allais travailler en première ligne, au début, je me suis renseignée pour avoir un hôtel. On a vu que l'encadrement était totalement débordé. Et moi, j'avais besoin d'une solution tout de suite parce que je voulais pas ramener ce virus chez moi. J'ai décidé d'en fait poster une annonce sur Twitter demandant si un Parisien pouvait pas me prêter son appart le temps de la crise. Je l'ai posté le vendredi à minuit avant de me coucher. Et je pensais qu'il allait passer inaperçu. J'allais avoir 2-3 réponses et autres. Et je me suis réveillée le matin et j'ai vu qu'il y avait à peu près 3000 retweets. Enfin, ça avait pris beaucoup d'ampleur avec énormément de réponses. Donc, il y a quelqu'un qui m'a prêté son appart à côté de mon hôpital où je suis actuellement, qui m'a laissé les clés dans mon service, qui s'est déplacé jusqu'à l'hôpital pour me laisser les clés. Très gentil. Aujourd'hui, je suis dans son appart. Et c'est vrai que ça a chamboulé toute ma manière de vivre. Je suis chez moi. C'est pas mes objets, mais c'est pas grave. Je leur remercie énormément. Au moins, je protège ma famille. Il y a beaucoup de solidarité qui se met en place. Moi, tous les soirs, je suis à mon balcon à 20h quand je peux. Je vois tous mes nouveaux voisins qui m'applaudissent. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Je savais que j'avais un beau métier, mais il n'y avait pas vraiment de reconnaissance à ce point-là. Les gens, ils savaient pas vraiment c'était quoi la fatigue d'être infirmière, la fatigue morale, la fatigue physique. Et là, je trouve que vraiment, il y a de la considération qui apparaît. Je suis un peu en mode robot en ce moment. Je fais mes soins, je passe d'une chambre à l'autre. Je prends sur moi. Mais c'est vrai que d'entendre ces applaudissements, ça me permet aussi de me dire, bah oui, en fait, tu fais un beau métier. Et aller, va retourner dans les chambres parce que il y a des gens qui comptent sur toi. En fait, je m'imagine souvent que derrière ces aboutissements, il y a des proches. Et comme ils n'ont pas le droit de venir dans les chambres, je me dis que c'est aussi leur moyen de faire comprendre que nous, on doit prendre soin de leurs proches, quoi. J'ai peur d'être inhumaine à cause de cette épidémie parce que au bout d'un moment, mon cerveau, il va devoir se protéger, c'est sûr. Et on va tous se mettre en mode réanimation, en mode... je pense plus. Sauf que ça peut durer très longtemps, quoi. En mode à la guerre. C'est ce qui se passe normalement quand on a une réanimation, on n'a pas trop le temps de penser. Mais là, ça va être des réanimations à la chaîne. Donc en fait, quand est-ce que j'aurai le temps de penser? Quand est-ce que j'aurai le temps de me poser sur la situation et savoir ce qui s'est passé? Ça va être faire A, faire B, faire C, faire D, et ça va être ça toute la journée. Et je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. C'est sûr que on n'est pas amené tous les mois à avoir des situations de ce type-là. Et à être réquisitionné en plan blanc, à être en confinement et à ne voir que ses collègues au final. C'est sûr que le gouvernement, il a des choses à se reprocher. L'hôpital, il va mal depuis très longtemps. Moi, ça fait presque 3 ans que je travaille à l'hôpital. Ça fait 3 ans qu'on est en souffrance. Le manque de masques, c'est pas possible. On s'est retrouvé à devoir rentrer à garder des masques 8 heures sur le nez qui font extrêmement mal. J'ai des bleus sur mon nez là actuellement parce que on est en manque de masques, on a des masques périmés, on n'arrive pas à joindre l'encadrement. Et après, d'un autre côté, je suis optimiste sur la suite de la crise parce que je peux pas être autre chose. Si je me dis que après la crise, on sera encore au même stade, c'est pas possible. Là, les gens, ils ont pris conscience, en fait, de nos conditions de travail. Ils ont pris conscience de la galère que c'était d'être soignant à l'heure actuelle, du salaire qui était très, très bas, du travail qu'on fournissait, des responsabilités qu'on avait, de la dureté psychique de ce métier. Donc, je pense que ça peut que améliorer les conditions de travail des soignants. C'est maintenant qu'il faut faire bouger les choses et c'est le moment de se battre. C'est le moment de faire preuve de toute l'humanité dont on est capable et de montrer tout le savoir-faire aussi qu'on a acquis pendant nos études. C'est le moment.
Je m'appelle Jeanne, je suis médecin généraliste à la campagne, en zone semi-rurale, en Nord-Isère, à peu près 45 minutes de Grenoble. Je travaille dans un village de 2500 habitants. Depuis que les gens sont confinés, il y a eu deux phases. Il y a eu une première phase, le premier jour de panique généralisée, où tout le monde s'est retrouvé à se dire qu'ils avaient le coronavirus. Tout le monde était très inquiet, on avait énormément de demandes d'arrêt de travail. La semaine dernière, tous les matins, je me suis dit, ça y est, ce matin, ça va être l'horreur. Je vais avoir plein de gens, je vais être débordée. Et puis, du coup, là, ça fait une semaine que c'est pas le cas. On voit vraiment pas grand monde. On a quelques appels, on fait un peu de télémédecine. Nous, on est dans des régions où il n'y a pas toujours une très bonne connexion 3G, ni une très bonne connexion Internet tout court. Et là, pour l'instant, c'est calme. Donc, je dis pas que je m'ennuie, mais j'ai vraiment du temps. Donc là, je pense que j'ai réussi à peu près à mettre en place un espèce de schéma d'organisation qui a l'air de pouvoir tenir le coup. De désinfecter le bureau entre chaque patient, de désinfecter toutes les surfaces, les stéthoscopes, les appareils à tension, les stylos, le bureau, l'appareil de carte bleue, tout ça. La salle d'attente. J'ai préparé dans ma voiture une boîte fermée pour pouvoir mettre toutes mes affaires qui seraient un peu contaminé, en gros, le masque que j'ai utilisé, mon stéthoscope, tout ça, et une boîte qui sera considérée comme propre. Du coup, en gros, je prends mes affaires dans la boîte propre. À la fin de la consultation, je les désinfecte. Et ce qui n'est pas désinfectable, donc par exemple les vêtements, je les range dans une boîte fermée que je laisse. Et a priori, je lave mes vêtements le soir en rentrant pour pas ramener et transporter du coronavirus partout. Moi, après, j'ai des cheveux longs, on se gratte souvent la tête, les cheveux, tout ça. Donc, je me dis que si d'un coup, je vois beaucoup de gens qui sont malades et que j'ai quand même l'impression d'être très exposée, je pense que je me laverai le soir avant de repartir, parce que j'ai une douche au cabinet, donc c'est pratique, y compris les cheveux, histoire de rentrer chez moi avec des vêtements complètement propres, chaussures comprises, et des cheveux propres. Ça demande pas mal de gymnastique intellectuelle parce que tous les gestes qu'on fait au quotidien, de se gratter le visage, de remettre ses lunettes, de se moucher, de prendre son téléphone, de répondre au téléphone pendant une consultation, ça veut dire que tout ça derrière, il faut qu'on passe un coup de spray dessus, quoi. En fait, moi, je suis pas inquiète pour moi parce que je suis jeune et en bonne santé. Mais par contre, j'ai ma grand-mère à la maison en ce moment qui est âgée et qui, du coup, a vraiment pas intérêt à prendre le coronavirus. Et deuxièmement, c'est pareil vis-à-vis de tous mes patients très fragiles, parce qu'on a quand même des patients très polypathologiques, on appelle, qui ont beaucoup de maladies, qui sont très fragiles, donc qui n'attraperont jamais le coronavirus à l'extérieur, mais qui ont un certain nombre d'intervenants qui passent chez eux, des aides à domicile, des infirmières, des médecins. Et je me dis que ce serait vraiment dommage que ce soit nous qui leur apportions un truc qui peut potentiellement leur être fatal. Et ce qui est vraiment difficile à anticiper pour moi dans mon activité, c'est de savoir si on va pas être débordé du jour au lendemain par un afflux de gens malades qui auront besoin d'être examinés, qui auront besoin d'être rassurés, qui auront besoin de conseils, qui auront besoin derrière de surveillance. Peut-être un afflux de malades qui vont sortir de l'hôpital de façon précoce, parce que si l'hôpital est débordé, ça va être au médecin généraliste de ville de faire le suivi. Et si ça se trouve, dans 3 jours, je vais être complètement débordée et ce qui me paraît facile à gérer actuellement va devenir invivable, quoi. Ça a été très angoissant la semaine dernière, quand c'était tout calme, que j'ai vu, que j'ai entendu, que tout le monde entendait dans les médias, que la vague arrivait, tout ça. Mais finalement, bah là, je sais pas si on est toujours dans l'espèce de calme avant la tempête ou si finalement la tempête arrivera pas chez nous, quoi. Je sais pas.
Donc, je m'appelle Maëva, je suis psychiatre à Paris, dans un hôpital de la PHP. Et donc, je travaille en particulier donc, avec des patients usagers de drogue dans un centre ambulatoire de soins. Alors, pour commencer, bah, je sais pas, il y a quelques semaines, j'étais un peu comme tout le monde. Donc, le coronavirus était un truc un peu lointain. Alors, nous, c'est vrai qu'on a une patientèle qui est quand même assez précaire. Des patients qui sont des patients sans-abri de Paris, quoi. Et puis, donc, on avait mis les affiches. Et puis, au fur et à mesure, en fait, donc, à partir du moment où on a commencé à nous dire qu'il fallait plus serrer la main. Dans mon métier, pas serrer la main, c'était vraiment spécial et, parce que ça fait partie du premier lien. Puis après, au fur et à mesure, les consignes n'arrivaient pas forcément. Et en même temps, on commençait à voir la gravité. Et du coup, c'est un peu, on commençait à anticiper la consigne, donc on commençait à faire laver les mains des patients quand ils arrivaient, et puis on commençait aussi à les faire circuler plus vite, parce qu'en fait, c'est un endroit qui est assez confiné, avec une petite salle d'attente. Et en tout cas, les consignes n'étaient pas forcément très claires, et ni les mêmes pour tout le monde. Donc au début, on a mis des masques à ceux qui étaient à risque, et puis après, on a mis des masques à ceux qui étaient à l'accueil. Au début, on avait mis des masques aux patients dont je savais qu'ils étaient immunodéprimés ou qu'ils avaient des problèmes pulmonaires. Et puis assez rapidement, en fait, on s'est entendu qu'en fait, il n'y avait pas assez de masques sur la PHP. Donc, on a évidemment arrêté de mettre des masques aux patients. Puis, à un moment donné, pareil, avant qu'on nous ait donné une quelconque consigne, on a mis la salle d'attente dehors. Enfin, au fur et à mesure qu'on comprenait comment fonctionnait le virus et la gravité, on prenait un peu des décisions. Après, je me suis rendu compte que les recommandations anglaises disaient, dans ces cas-là, c'est une pièce avec une fenêtre qu'on peut aérer. Nous, on n'a pas de fenêtre qu'on peut aérer. Donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure, en fait, l'inquiétude, elle monte. Et j'ai pas d'inquiétude forcément pour moi, mais par contre, c'est vrai que l'inquiétude au fur et à mesure, c'était quand même l'inquiétude de le ramener chez moi. Puis l'impression, en fait, est-ce que je suis contagieuse pour les gens dans le métro? Est-ce que, au contraire, je ramène du métro de chez moi un virus que je vais aller donner aux patients? Donc tout ça, en fait, c'est assez angoissant. J'étais tenue par la colère, je pense, et l'action. Le moment, en fait, où la grosse colère a commencé, c'était les municipales. J'ai vraiment cru jusqu'à la fin qu'elles auraient pas lieu. Je crois que dimanche matin, je croyais encore qu'ils allaient les annuler. J'ai pas compris, en fait. J'ai pas compris cette décision. J'ai pas compris... Enfin, j'étais paniquée quand je voyais les images de bureaux de vote, quand je voyais... la dépense de solutions hydroalcooliques alors qu'on n'en a pas assez, et les mesures qui étaient prises qui me paraissaient vraiment pas du tout à la hauteur des enjeux et de la gravité de la situation. Je pense qu'il y a des morts qui auraient pu être évitées dans celles qui vont venir, qu'à partir du moment où il y a une prise de conscience de la gravité de la situation, effectivement, les demi-mesures, les mesures retardées, les mesures qui visent à garder une vie politique qui, franchement, au vu de ce qui se passe, paraissent un peu dérisoires. C'était pas à la hauteur de la situation et ça a probablement provoqué des décès. Alors, c'était jeudi soir, donc j'étais dans la rue, c'était une journée difficile. En tout cas, dans mon hôpital qui était un petit peu épargné au début, les premiers patients atteints du Covid allaient arriver. Tout ce que moi, je pouvais faire, je l'avais plus ou moins fait. J'étais un peu au bout. Et je suis rentrée, j'ai entendu les applaudissements. Et je sais pas, en fait, la colère est montée. Enfin, très, très fort. Je l'attendais pas spécialement. Et là, je me suis mise à crier. J'ai crié dans la rue qu'on voulait pas des applaudissements. Que ce qu'on voulait, en fait, c'était des moyens pour l'hôpital et c'était des masques. Et à ce moment-là, en fait, certaines personnes qui étaient au balcon m'ont insultée. Elles m'ont dit de quoi je me mêlais, en fait. Et quand j'ai dit que j'étais soignante, on m'a demandé ce que je faisais dans la rue. Donc j'ai dit, bah en fait, je rentre de l'hôpital. Et ensuite, on m'a demandé quel genre de soignante je pouvais bien être. Enfin, sans jeter sur moi une connasse et que personne ne voudrait être soignée par moi. Enfin, des choses comme ça. Après, je suis rentrée et j'ai pleuré. Après, j'étais un peu fatiguée, j'étais en colère. Et puis, en fait, j'ai aussi toute la peur là, des gens qui vont mourir, quoi, qui arrivent. Donc, ça m'a un peu tombé dessus à ce moment-là. Ouais. Ce que j'attends, en fait, de la population qui est confinée actuellement, si elle veut se montrer solidaire, des soignants, c'est vraiment de la révolte, en fait, contre ce qui nous amène là, à savoir des années et des années de destruction de l'hôpital public, et puis par-dessus, une gestion de la crise qui est catastrophique, en fait. Et après, j'ai essayé d'analyser un petit peu ma colère, parce qu'effectivement, j'ai des collègues qui sont soignants et qui, eux, sont touchés par ces applaudissements. Je crois que ma mère a applaudi. Je ne peux pas culpabiliser les gens qui veulent le faire, je veux juste les conscientiser, leur dire qu'en fait, nous, on ne veut pas des applaudissements, on veut des moyens, des décisions collectives. Et que donc, moi, je ne veux pas de la reconnaissance, en fait. Je veux de la solidarité. Je veux qu'on soit dans la même équipe. Je ne veux pas être l'héroïne qui va au front, sans aucun équipement, sans rien. Moi, j'ai juste envie, comme tout le monde, de faire mon travail dans des conditions de sécurité normales, qui soient apaisantes, qui me permettent aussi d'apaiser l'anxiété des autres.
Ça a duré plus longtemps que prévu. Et là, j'ai mon mari qui m'appelle pour que je rentre à la maison. Parce que lui a une urgence, donc doit aller s'occuper d'un patient. Cet après-midi, comme je suis à la maison avec les enfants, j'ai peur de ne pas être au calme.
Ok. C'était grave là, du coup, t'as eu un...
Non, pas du tout. Au contraire, moi, j'interviens quand c'est bien.
D'accord.
En fait, c'est parce que là, le patient, il fallait le lever, faire son premier lever et tout. Mais le temps que tu t'habilles, en fait, le temps de le mobiliser, de lui faire une petite séance de kiné-respi, et en fait on l'a levé, mais en fait il n'était pas prévu, donc non, au contraire, c'est qu'il allait mieux. Pour le coup, nous, à Ajaccio aujourd'hui, c'est calme, si on peut dire, quoi. Il y a des patients qui arrivent tous les jours, mais en réa, ça s'est pas aggravé par rapport à hier. Donc on en a plus que un qui est intubé et un qui a une trachéo. Donc il y en a plus que deux qui ne respirent pas seuls. Sinon, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 en réa, mais qui respirent seuls avec beaucoup d'oxygène, mais qui respirent seuls, donc c'est cool, quoi. Non, aujourd'hui, ça allait.
Et donc là, tu rentres. Bah écoute, n'hésite pas si aujourd'hui t'as...
Si je vois qu'à un moment donné, ils sont calmes, après manger, quelquefois, j'ai un petit dessin animé, c'est le temps calme avant les devoirs, je te permets de t'appeler. De toute façon, au pire, si tu es occupée, tu me réponds pas.
Ouais, voilà, c'est parfait.
Hein, on fait ça.
Ok.
Y a pas de soucis, pas de problème.
À tout à l'heure.
Ok, ça va aller, à tout à l'heure. Bisous, bye bye. Je m'appelle Cécile, je suis kiné à l'hôpital d'Ajaccio depuis 12 ans et plus particulièrement en service de réanimation soins intensifs. Alors au début, on a fait un peu les beaux en disant nous, on est la seule région où il n'y a aucun cas Covid. Et en fait, c'est arrivé très vite, on a développé un cluster et les gens ne s'en sont pas rendus compte de suite. Donc comme il y a eu beaucoup de cas de contact, il y a eu beaucoup de cas d'un coup. Donc ce qui a en fait chamboulé totalement mon activité. Donc nous, en réa, il y a deux choses que je fais maintenant. C'est beaucoup de mobilisation de patients et un travail d'équipe qui est hyper important en fait avec les infirmiers, les médecins et les soignants, c'est pour tout ce qui est retournement du patient. Et le gros traitement, hors traitement médicamenteux, c'est en fait d'installer le patient en décubitus ventral sur le ventre pendant une durée moyenne d'environ 16 heures et après de le mettre sur le dos que 8 à 10 heures. Donc... déjà, il y a tout l'habillage avant qui est complexe et après, le retournement prend peut-être 5 minutes. Mais c'est 5 minutes bien synchronisées parce qu'il faut surveiller le patient tout en le retournant ou sur le ventre ou sur le dos. C'est la première fois que j'ai un plan blanc déclenché moi dans ma carrière. Hein. C'est vrai que nous, les kinés, souvent, on n'est pas du tout en première ligne parce que c'est souvent plus de la traumatologie quand c'est des plans blancs, des gros traumas qui arrivent d'un coup. Donc, c'est vrai que nous, on intervient après, mais pas dans l'urgence même. Il y a un stress aussi parce que le problème, c'est que je trouve qu'il y a en plus une atmosphère assez angoissante et assez psychogène. C'est sûr qu'il faut faire attention dès le matin quand ça arrive. Hein. Tu arrives à l'hôpital, tu fais un coup de manugel, ensuite tu t'habilles, tu mets une tenue de table, tu mets une surblouse, puis le tablier, puis une charlotte, puis les lunettes. C'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude de mettre ce gros équipement au départ. Mais c'est vrai que là, c'est un équipement en tant que kiné où pour le coup, j'ai rarement... Non, j'avais jamais eu l'occasion de faire ça, quoi. C'est vrai que ce plan blanc là, en fait, tu sens vraiment, cette équipe qui fait corps, on va dire, contre ce putain de virus. On est des petits soldats et chacun a son rôle. En fait, c'est terrible. Après, c'est pas, moi en tant que soignante, vraiment, c'est kiffant pour moi de vivre ce moment-là avec le Covid, en fait. Parce que même si on va pas le soigner nous directement, on va faire tout notre possible pour Enfin, moi, je vais essayer de lever le maximum de gens, les faire marcher pour qu'ils rentrent plus rapidement chez eux, pour libérer des chambres, pour accueillir les nouveaux patients qui vont arriver. D'avoir des situations un peu comme ça, d'urgence, on ne sait jamais trop ce qui va se passer le matin, l'après-midi, le soir. Et ben, moi, c'est vrai que ça me stimule beaucoup et ça me plaît. Et ça me confirme le fait que j'adore bosser à l'hôpital, en fait, et que j'adore bosser en équipe. Et ça me plaît énormément de pouvoir participer à la lutte contre ce virus, en fait. Après, c'est assez fatigant. Hein. J'avoue que quand je rentre chez moi, je peux me faire une petite sieste en fin de journée. J'avoue que j'ai un petit moment où je... Voilà, on est dans le rush, on tient. Et en fait, on sort de l'hôpital, le temps d'évacuer. Là, moi, j'ai mis 7 minutes à pied pour rentrer chez moi. Et quand j'arrive à la maison, donc je retrouve mes enfants qui sont excités, l'un qui me raconte leur journée, les devoirs qu'ils ont fait avec mon mari. Et après, quand je joue avec eux et que je lis un bouquin, je m'assois et ça peut m'arriver de m'assoupir en fait 5-10 minutes parce que c'est vrai que c'est le contre-coup en fait. Et là, je sens qu'en fait, on travaille quand même avec une certaine tension, même si ça nous fait en fait, il y a quand même un certain stress et une certaine tension palpable. Donc moi, c'est vrai qu'à 20h, quand j'applaudis, je pense donc à mes collègues soignants, mais je pense aussi à tous les soignants libéraux. Et aussi à tous les livreurs, les caissières, tous les commerçants qui continuent d'ouvrir leurs magasins parce que c'est important que je puisse acheter mes paquets de pâtes et mes légumes pour nourrir toute ma famille. Et puis, moi, je me dis qu'il faut toujours essayer de trouver le côté optimiste de la chose quand il arrive des grosses crises comme ça. Donc, même si c'est terrible hein, pour les familles qui perdent des membres de leur famille. Mais c'est vrai que ce qui est agréable, c'est que justement, il y a des bons côtés qui ressortent à côté. Et voilà, quoi. Il y a quand même une certaine solidarité entre les gens. Et ça, c'est vrai que c'est agréable. Let's stay naked in the house all day. Let's pretend we never had it any other way. Let's just stay. Let's stay naked in the house all day. Let's pretend we never had it any other way. Let's just stay. When you go, your way, yeah. I will go your way too. Let's play at a menu today. Eat forbidden fruit.
C'était Des soignants dans la tempête, un reportage d'Alice Babin réalisé par Clémence Grosse. Merci à Marie, à Jeanne, à Maëva, à Cécile, à Claude et à Julia. Roxane Poulain et Sarah Djiroui s'occupent de l'assistanat à la production des Pieds sur Terre. Merci à L2 ainsi qu'à tous les producteurs et réalisateurs des Pieds sur Terre en ces temps difficiles.
When you go.